Évangile selon Matthieu, chapitre 25, parabole des 10 vierges, versets 1 à 13.
Lecture de la parole. Alors le royaume des cieux sera fait semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, sortirent à la rencontre de l'époux. Et 5 d'entre elles étaient prudentes, et 5 folles. Celles qui étaient folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les prudentes prirent de l'huile dans leur vaisseau avec leur lampe. Or, comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Mais au milieu de la nuit, il se fit un cri, « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se levèrent et apprêtèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux prudentes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Mais les prudentes répondirent, disant, « Non, de peur qu'il n'y en ait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vers ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous-mêmes. » Or, comme elles s'en allaient pour en acheter, l'époux vint, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces, et la porte fut fermée. Ensuite viennent aussi les autres vierges, disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais lui répondant dit, « En vérité, je vous dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Lecture de l'étude. Voici une parabole du royaume des cieux, de cet état de choses qui existe pendant le temps où le roi est rejeté, mais où un témoignage lui est rendu par ceux qui l'ont reçu et le connaissent. Le Seigneur présente ici une des formes de ce royaume. Il le compare à 10 vierges sorties à la rencontre de l'époux. Cette rencontre, dans les noces, telles qu'elles se célèbrent encore en Orient, a lieu la nuit, moment de l'arrivée de l'époux. Il faut donc lui donner de la lumière pour lui permettre d'entrer dans la salle des noces. C'est à ce service que sont appelées les vierges. Seul il leur accorde le privilège d'entrer avec l'épouse aux noces. Ces 10 vierges, ayant pris leurs lampes, sortirent à la rencontre de l'époux. Elles représentent tous ceux qui ont reçu l'Évangile depuis que le Seigneur l'a fait proclamer en tout lieu et qui, dès lors, ont fait profession de christianisme. L'Évangile ayant été prêché aux Juifs et aux gentils, tous ceux qui l'acceptèrent sortirent du judaïsme et du paganisme qu'ils avaient pratiqué comme religion. Ils sortirent pour attendre le Seigneur. Le christianisme vital, tel qu'il se réalisait au premier temps de l'Église, se caractérisait par l'attente vivante du retour de Christ. On racontait comment les Thessaloniciens s'étaient tournés des idoles vers Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, 1 Thessaloniciens 1, verset 9. Mais de bonne heure, il entra dans ce témoignage public des personnes professant le christianisme comme religion, mais sans la vie, sans la puissance de l'Esprit qui fait briller la vie de Dieu, comme l'huile qui fait brûler la lampe. Elles sont représentées par les 5 vierges folles. En effet, quelle folie que de s'engager à éclairer peut-être toute une nuit, car on ne savait à quelle heure l'époux venait, sans prendre avec soi l'huile nécessaire pour alimenter leur lampe. Les vierges prudentes avaient pris de l'huile dans leur vase, car elles se rendaient bien compte de leur service. Elles représentent donc ceux qui, dans la chrétienté, ont la vie de Dieu, dont l'esprit fait briller les caractères dans la nuit morale où le monde se trouve jusqu'au retour de Christ.
Hélas, comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Les croyants, aussi bien que les non-croyants, ont perdu de vue la pensée du retour de Christ. L'influence endormante de la nuit a produit ses effets sur les uns comme sur les autres, car il faut une énergie constante pour ne pas s'endormir, parce que ce n'est pas naturel d'être éveillé pendant la nuit. Il faut pour cela qu'un objet captive le cœur. Or, si cet objet n'est pas Christ, le chrétien s'endort vite, il suit le courant de ce monde, ce qui est naturel à la chair. Mais au milieu de la nuit, il se fit un cri, « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» De nouveau, il faut sortir non plus du judaïsme et du paganisme comme au commencement, mais de l'état de sommeil dans lequel la chrétienté tout entière était tombée, faute de vigilance. Un réveil se produit. C'est ce qui eut lieu dans la première moitié du siècle passé, lorsqu'on retrouva dans la parole la vérité concernant la venue du Seigneur. Toutes les vierges, pour ainsi dire, se levèrent et apprêtèrent leurs lampes. Mais les lampes de celles qui n'avaient pas d'huile avec elles s'éteignirent bientôt, car à quoi bon ranimer une mèche sans huile pour l'alimenter? On a beau vouloir réformer une religion sans vie, elle ne produit pas de lumière pour le Seigneur, lui le manque. Les fruits d'une nature religieuse ne sont pas les produits du Saint-Esprit et ne peuvent se soutenir. Les folles dirent aux prudentes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les vierges prudentes ne pouvaient qu'envoyer leurs compagnes à la source, vers ceux qui en vendent. Le croyant possède la vie et le Saint-Esprit pour lui-même, mais il ne peut les communiquer à d'autres. Or, comme elle s'en allait pour en acheter, l'époux vint, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces. Elles avaient accompli le service pour lequel elles avaient été appelées. Leur place était avec l'époux dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Quelle chose terrible que la porte fermée, cette porte que personne ne peut ouvrir, et qui sépare ceux qui sont dans l'allégresse et la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres et les pleurs. Cela rappelle cette porte que Dieu lui-même ferma sur un monde impie qui allait être englouti par les eaux. Genèse 7, verset 16.
Et ce qui entra, entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu le lui avait commandé, et l'Éternel ferma l'arche sur lui.
Les autres vierges viennent, disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais lui répondant, dit, « En vérité, je vous dis, je ne vous connais pas. » Réponse terrifiante. L'époux avait besoin de ces vierges pour lui donner de la lumière au moment de son arrivée. Elles ne se trouvaient pas là. Aussi ne savait-il que faire d'elles dans la salle des noces. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Chers lecteurs, qui pourriez n'être pas prêts, ne jouez pas avec le temps. Nous connaissons celui qui est derrière nous, mais non pas celui qui est devant. Ce temps de la grâce est limité, nous touchons à son terme. Le cri « Voici l'époux » s'est fait entendre il y a plus de 100 ans déjà, lorsque la vérité relative au retour de Christ fut retrouvée et proclamée dans toute la chrétienté. Ce cri ne précède que d'un instant l'arrivée de l'époux. On alléguera que ce retour n'est pas imminent, mais, au contraire, il s'est rapproché de nous d'une 100 années. Du reste, n'oublions pas qu'un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour, de Pierre 3, verset 8. Il ne nous appartient pas de discuter sur le temps avec Dieu, car le temps appartient à lui seul. Le Seigneur appelle insensé celui qui décidait du temps pendant lequel il pourrait faire bonne chère et se réjouir. Luc 12, verset 19.
Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens assemblés pour beaucoup d'années, repose-toi, mange, bois, fais grande chère.
On frémit à la pensée que tant de personnes, et même des enfants de chrétiens, pourront se trouver dans le cortège des vierges folles, puisqu'elles n'auront ni la vie, ni le Saint-Esprit, et ne manifesteront aucune lumière pour le prochain retour de Christ. C'est pour cela que nous répétons qu'il faut posséder ces choses aujourd'hui, pour être sûr de les avoir plus tard. Si vous croyez qu'il y a encore du temps jusque-là, puisqu'il s'en est déjà tant écoulé, rejetez cette pensée qui en a entraîné un si grand nombre dans l'abîme. Puisque ce jour peut être aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'il faut accepter le salut, car demain vous pourriez bien crier avec vos compagnons d'infortune derrière la porte fermée, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » et recevoir pour toute réponse cette parole solennelle « Je ne vous connais point ». Le Seigneur pourrait vous dire aussi « Je vous ai appelé tant et tant de fois, je vous ai fait dire que le temps était court, que j'allais venir. Vous avez laissé couler ce temps précieux, préférant jouir du monde et des choses qui sont dans le monde, maintenant il est trop tard. » trop tard. Même si quelqu'un connaissait le jour de sa mort ou le jour de la venue du Seigneur, nul n'oserait garantir qu'il en profiterait pour se convertir. Vous connaissez peut-être l'histoire d'un jeune homme averti dans un songe que, dans un an et un jour, il descendrait en enfer. Un avertissement pareil aurait dû le décider pour Christ et produisit en lui, sur le moment, une profonde impression. Mais le monde reprit le dessus et, un an et un jour après son rêve, il disparaissait dans l'abîme, chargé de tous ses péchés. « Hâte-toi, le temps passe et ne reviendra plus. Aujourd'hui, jour de grâce, viens à Jésus. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » C'est ainsi que le Seigneur lui-même termine cette solennelle parabole des dix vierges. Dieu veuille qu'elle ne soit présentée en vain à aucun de nos lecteurs. Parabole des talents, versets 14 à 30.
Lecture de la parole. Car c'est comme un homme qui, s'en allant hors du pays, appela ses propres esclaves et leur remit ses biens. Et à l'un, il donna 5 talents, à un autre 2, à un autre 1, à chacun selon sa propre capacité. Et aussitôt il s'en alla hors du pays. Or celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir, et acquit 5 autres talents. De même aussi celui qui avait reçu les 2 en gagna lui aussi 2 autres. Mais celui qui en avait reçu 1 s'en alla, et creusa dans la terre et cacha l'argent de son maître. Et longtemps après, le maître de ses esclaves vient et règle compte avec eux. Et celui qui avait reçu les 5 talents vint et apporta 5 autres talents, disant, « Maître, tu m'as remis 5 talents, voici, j'ai gagné 5 autres talents par-dessus. » Son maître lui dit, « Bien, bon et fidèle esclave, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. » Entre dans la joie de ton maître. Et celui qui avait reçu les 2 talents vint aussi et dit, Maître, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'ai gagné 2 autres talents par-dessus. Son maître lui dit, Bien, bon et fidèle esclave, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Et celui qui avait reçu 1 talent vint aussi et dit, Maître, je te connaissais que tu es un homme dur, moissonnant où tu n'as pas semé, et recueillant où tu n'as pas répandu. Et craignant, je m'en suis allé, et j'ai caché ton talent dans la terre. Voici, tu as ce qui est à toi. Et son maître répondant lui dit, méchant et paresseux esclave, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je recueille où je n'ai pas répandu. Tu aurais donc dû placer mon argent chez les banquiers, et... quand je serai venu, j'aurai reçu ce qui est à moi avec l'intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car à chacun qui a, il sera donné, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, cela même qu'il a lui sera ôté. Et jetez l'esclave inutile dans les ténèbres de dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents.
Lecture de l'étude. Car c'est comme un homme qui, s'en allant hors du pays, appela ses propres esclaves et leur remit ses biens. Cet homme, c'est Christ venu dans ce monde chez les siens. Il ne fut pas reçu et dut s'en aller pour un temps. Nous savons où il se trouve maintenant. Ses biens sont ceux qui dépendent de sa venue ici-bas et de son œuvre à la croix. Il les confie à chacun selon sa sagesse pour qu'on les fasse valoir pendant son absence, et qu'il en retire le profit à son retour. Nous avons donc ici un autre côté de la conduite et de la responsabilité de ceux qui attendent le Seigneur. Au chapitre 24, nous voyons le service de l'esclave qui a pour tâche de nourrir ceux qui habitent la maison avec lui. La parabole des vierges parle de la lumière de la vie divine qui doit briller en vue du retour de Christ. Ici, ce sont les biens que la grâce nous a apportés, et qu'il faut mettre en valeur dans ce monde pour le compte du Seigneur. À l'un, il donne 5 talents, à un autre 2, et à un troisième 1. À son retour, longtemps après, comme les esclaves avaient eu le temps de trafiquer, le maître régla compte avec eux. Les 2 premiers avaient doublé les sommes qui leur avaient été confiées. Aussi, le maître dit à chacun d'eux, « Bien, Bonne et fidèle esclave, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Avec Dieu, les récompenses dépassent infiniment les services rendus. Dieu agit toujours en grâce, quoiqu'il récompense le travail fait pour lui. Je t'établirai sur beaucoup. C'est une participation bien précieuse à la domination du Seigneur ainsi qu'à sa joie. Ses esclaves avaient joui de son amour, de sa communion dans le temps du labeur. La connaissance de sa personne leur avait fourni l'énergie nécessaire pour le servir fidèlement, en sorte que leur part heureuse n'est pas seulement d'être établie sur beaucoup, mais d'entrer dans la joie de celui qui jouira aussi, d'une manière infinie, du fruit du travail de son âme. Quelle différence lorsque le maître en vient à celui qui n'avait reçu qu'un talent. Il n'en avait rien fait. Il l'avait caché dans la terre. Il s'était montré paresseux parce qu'il ne connaissait pas le caractère de son maître, quoiqu'il dit « Je te connaissais que tu es un homme dur, moissonnant où tu n'as pas semé et recueillant où tu n'as pas répandu. Et, craignant, je m'en suis allé et j'ai caché ton talent dans la terre. Voici. » Tu as ce qui est à toi. On ne saurait trouver une appréciation plus opposée à la vérité quant au caractère du Seigneur, ce maître qui a vécu dans la pauvreté afin de nous enrichir. De Corinthiens 8, verset 9.
Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, comment, étant riche, il a vécu dans la pauvreté pour vous, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis.
Celui duquel nous tous nous avons reçu est grâce sur grâce, Jean 1, verset 16, le Fils de l'homme qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs, Matthieu 20, verset 38, le Fils du Père, débonnaire et humble de cœur, Matthieu 11, 29. S'il avait vraiment cru avoir affaire avec un maître tel qu'il prétendait le connaître, il aurait dû travailler énergiquement pour le satisfaire. Seule la connaissance de la grâce dont le Seigneur Jésus a été l'expression ici-bas peut donner l'énergie de travailler avec zèle et intelligence au service du Maître. Malgré tous ces biens que le Seigneur a laissés dans ce monde pour son service, personne ne peut les employer pour lui s'il ne possède une connaissance vitale de lui-même. Sans cela, le talent est caché dans la terre. Si l'on connaît Christ, son amour remplit le cœur. Il donne le zèle et l'intelligence nécessaires pour travailler pour lui. Si cet amour manque, rien ne peut se réaliser, et l'on se fait de Dieu une fausse idée, car on ne peut connaître Dieu que par Christ. Lui seul l'a révélé dans son amour infini. Sans cette connaissance, on ne peut avoir vis-à-vis de Dieu que la méfiance introduite par Satan dans le cœur de l'homme à la chute, lorsqu'il lui fit croire que Dieu ne lui avait pas donné tout le bonheur possible, puisqu'il le privait du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme crut Satan, et eut dès lors une fausse idée de Dieu. Puis, sa conscience lui reprochant ses fautes, au lieu de l'amener à s'humilier devant Dieu, le fait accuser Dieu d'être la cause de son malheur. Dans son amour infini, Dieu a voulu montrer à l'homme qu'il était au contraire la seule cause de son bonheur. Il est venu ici-bas dans la personne de son Fils unique apporter le pardon et la paix. Mais pour le connaître ainsi, il faut accepter Christ. Car si Christ est rejeté, Dieu l'est aussi, et l'homme reste dans son état de péché pour l'éternité. Le maître dit de l'esclave paresseux, ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car à chacun qui a, il sera donné, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, cela même qu'il a lui sera ôté. Et jetez l'esclave inutile dans les ténèbres de dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. C'est comme inutile que l'esclave paresseux est condamné. Il n'y a de vraie utilité dans ce monde que dans ce qui est fait pour Christ. De toute l'activité humaine, si belle et si productive qu'elle puisse être ou paraître ici-bas, rien ne subsistera dans l'éternité que ce qui aura été fait pour Christ, et dans la connaissance vitale de sa personne, car on ne peut avoir Christ pour objet que si on a Christ pour sa vie. Le fait que le talent a été ôté à cet homme et donné à celui qui en avait déjà 10 place devant nous ce principe que celui qui est fidèle reçoit toujours davantage. Plus on grandit en connaissance et en obéissance à Dieu, plus on reçoit de bénédictions, et cette bénédiction est une part éternelle dans la présence du Seigneur. Tous les bienfaits du christianisme dont le monde religieux s'est paré et se vante, en contraste avec les nations encore plongées dans l'idolâtrie, lui seront ôtés un jour, lorsque ceux qui auront connu et servi le Seigneur entreront dans sa joie et recevront une abondante et éternelle bénédiction. Puissions-nous tous, jeunes et vieux, connaître toujours mieux Christ, afin d'acquérir par cette connaissance la capacité d'accomplir pour lui un service dont les résultats seront éternels. Choisissons, comme Marie, la bonne part qui ne peut être ôtée ni ici-bas, ni dans l'éternité. Le trône du Fils de l'homme, versets 31 à 46.
Lecture de la parole. Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui. Et il séparera les uns d'avec les autres, comme un berger sépare les brebis d'avec les chèvres, et il mettra les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, héritez du royaume qui vous est préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais infirme et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus auprès de moi. » Alors les justes lui répondront, disant, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et que nous t'avons nourri, ou avoir soif et que nous t'avons donné à boire? Et quand est-ce que nous t'avons vu étranger et que nous t'avons recueilli, ou nu et que nous t'avons vêtu? Et quand est-ce que nous t'avons vu infirme ou en prison et que nous sommes venus auprès de toi? » Et le roi répondant leur dira, « En vérité, je vous dis, en tant que vous l'avez fait à l'un des plus petits de ceux-ci qui sont mes frères, vous me l'avez fait à moi. » Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. Nu, et vous ne m'avez pas vêtu, infirme et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors eux aussi répondront, disant, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim ou avoir soif ou être étranger, ou nu ou infirme ou en prison, et que nous ne t'avons pas servi ?» Alors il leur répondra, disant, « En vérité, je vous dis, en tant que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne me l'avez pas fait non plus à moi. Et ceux-ci s'en iront dans les tourments éternels, et les justes dans la vie éternelle. »
Lecture de l'étude. Lorsque le Fils de l'homme sera venu pour délivrer le résidu juif des terribles persécutions mentionnées au chapitre 24, il s'assiera sur son trône pour juger les nations auxquelles l'évangile du royaume a été proclamé. Voir chapitre 24, verset 14.
Cet évangile du royaume sera prêché dans la terre habitée tout entière, en témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin.
Cet évangile invitera les hommes à craindre Dieu et à lui donner gloire. Apocalypse 14, versets 6 à 7.
Et je vis un autre ange volant par le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel, pour l'annoncer à ceux qui sont établis sur la terre et à toute nation et tribu et langue et peuple, disant à haute voix, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et rendez hommage à celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les fontaines d'eau. »
En leur annonçant que le roi qu'il faut reconnaître est le Seigneur qui viendra du ciel, et non les souverains impies et puissants qui s'élèveront alors sur la terre grâce à la puissance de Satan. Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui. C'est de ce fait probablement que parle Joël 3, versets 2 et 12.
Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Et là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple et de mon héritage, Israël, qu'elles ont dispersé parmi les nations et elles ont partagé mon pays. Que les nations se réveillent et montent à la vallée de Josaphat, car là je m'assiérai pour juger toutes les nations de toutes parts.
Outre les nations assemblées devant lui, une autre classe de personnes se présente aussi, ceux que le Seigneur appelle les petits, qui sont mes frères, versets 40 et 45, à savoir les messagers qui ont annoncé l'évangile du royaume aux nations qui n'auront pas entendu l'évangile de la grâce dans l'économie actuelle. Le Fils de l'homme est comparé à un berger qui sépare les brebis d'avec les chèvres. Il met les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Il connaît ses brebis. Elles ont pris ce caractère parce qu'elles ont écouté et reçu les messagers que le roi leur a envoyés. Elles se distinguent des chèvres en ce qu'elles ont accueilli ceux qui, au travers de beaucoup de privations, de douleurs et de persécutions, leur ont apporté l'évangile du royaume, service que le Seigneur considère comme rendu à lui-même. Il le dit aux 12 lorsqu'il les envoie annoncer ce même évangile. Chapitre 10, verset 40-42. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Et quiconque aura donné à boire seulement une coupe d'eau froide à l'un de ses petits, en qualité de disciple, en vérité je vous dis, il ne perdra point sa récompense. Le Seigneur tient compte de tout ce qui est fait à un des siens, en bien ou en mal, comme si c'était fait à lui-même. C'est pourquoi il dit à Saul, lorsqu'il l'arrêta sur le chemin de Damas, « Pourquoi me persécutes-tu ? » Saul ne savait pas qu'il persécutait le Seigneur dans la gloire, en persécutant ceux qui croyaient en lui. Il en va toujours de même aujourd'hui à cause de l'union qui existe entre Christ et les croyants, puisque chaque croyant est membre du corps de Christ. Nous devons donc porter à chacun d'eux la bienveillance, le respect, la considération, l'amour qui sont dus au Seigneur. Car nous aussi, nous aurons à paraître devant lui, mais pas en même temps que les nations. 2 Corinthiens 5, versets 9-10. C'est pourquoi aussi, que nous soyons présents ou que nous soyons absents, nous nous appliquons avec ardeur à lui être agréables, car il faut que nous soyons tous manifestés devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive les choses accomplies dans le corps selon ce qu'il aura fait, soit bien, soit mal. À ceux qui sont à sa droite, le roi dira, « Venez les bénis de mon Père, héritez du royaume qui vous est préparé dès la fondation du monde. Bénédiction précieuse, faveur qui accorde la jouissance du royaume du Fils de l'homme. » Ils y trouveront un bonheur parfait sur cette terre, où régneront la justice et la paix après tant de souffrances. Et ces privilèges font ressortir la supériorité de ceux que possèdent déjà, par la foi, les croyants d'aujourd'hui. Ils font partie de l'Église, qui participera à ce beau règne comme épouse du roi, et non comme sujette de ce royaume. Les croyants actuels, non seulement sont bénis du Père, mais sont enfants de Dieu. Seigneur Jésus les a identifiés avec lui dans la position qu'il occupe actuellement comme homme ressuscité et glorifié, ainsi qu'il l'annonce aux disciples le jour de sa résurrection, en Jean 20, verset 17.
Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu. »
Actuellement, nos bénédictions sont spirituelles et célestes en Christ, préparées avant la fondation du monde. Éphésiens 1, versets 3 et 4.
Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui en amour.
Tandis que le royaume, qui sera la part du peuple béni sur la terre, est préparé dès la fondation du monde, et il prendra fin après l'accomplissement des 1000 ans. Apocalypse 20, versets 6 à 7.
C'est ici la première résurrection. Bienheureux et saint celui qui a part à la première résurrection. Sur eux, la seconde mort n'a point de pouvoir, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui 1000 ans. Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison. Cependant, tous les croyants qui participeront au règne de Christ sur la terre se trouveront aussi sur la nouvelle terre que nous attendons tous, et cela pour l'éternité, lorsque la terre et les cieux actuels auront passé. 2 Pierre 3, verset 13. Mais selon sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre dans lesquelles la justice habite.
Apocalypse 21, verset 1.
Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et la mer n'est plus.
Le roi rappelle à ceux qui sont à sa droite ce qu'ils ont fait pour lui. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais infirme et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus auprès de moi. Tout ceci fait comprendre par quelles circonstances pénibles ces envoyés du Seigneur auront à passer pour porter l'Évangile aux nations, dans un temps de ténèbres où tous seront ligués pour s'opposer au règne de Christ. Mais, du haut de sa demeure glorieuse, Seigneur veillera sur eux et appréciera tout ce qui se fera pour chacun de ceux qu'il appelle ses frères. Dans son jour, les conséquences de la conduite de chacun seront manifestées. Les justes entrent dans la bénédiction qui leur avait été annoncée. Aucun des justes ne croit avoir rendu de tels services au roi. Il ne l'avait pas fait en vue d'une récompense. Ils n'avaient pas pensé à la portée de leurs actes envers les frères du roi. Mais le Seigneur, dans sa bonté, tient compte de tout ce qui est fait pour lui, accompli souvent sans éclat devant le monde, dans l'obscurité, service méprisé par les hommes, mais apprécié par Dieu qui discerne les motifs qui font agir et sont le fruit de l'amour pour lui, sans que celui qui agit s'en rende compte. Au jour où tout sera manifesté, il montrera ce qui a eu du prix pour son cœur. Nos services qui en auront eu le plus pour Christ seront, sans doute, ceux dont la valeur nous aura le moins préoccupés, mais qui auront été le fruit naturel de l'attachement à Christ, réalisé dans toute notre vie, dans les plus petits détails, comme aussi par les soins prodigués aux enfants de Dieu dans les circonstances difficiles que tous ont à traverser ici-bas, en un mot, tout ce qui aura été fait pour son nom. À ceux qui sont à sa gauche, le roi dira « Allez-vous-en loin de moi, maudit, dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. Nu, et vous ne m'avez pas vêtu. Infirme et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Eux non plus ne savent pas quand ils auraient eu l'occasion de faire toutes ces choses au roi. Cette occasion, ils l'ont perdue pour toujours. En méprisant les envoyés du roi, ils l'ont méprisé lui-même. Aujourd'hui, comme alors, il n'y a rien d'attrayant pour le cœur naturel dans la présentation de l'Évangile. Le monde et ses avantages présents font mettre de côté la bonne nouvelle du salut et ceux qui l'annoncent. Mais le jour du Seigneur s'approche où tout sera manifesté dans la lumière, et alors, nombreux seront ceux qui voudraient avoir agi autrement. Car, dans ce jour-là, que donneront les plaisirs et les avantages mondains? Quelle sera la valeur des raisonnements de l'esprit humain qui auront paru plus sages que la parole de Dieu? Il sera trop tard pour revenir en arrière, le temps sera passé. On aura beau n'être plus incrédule, constater que toute sa sagesse était folie, le repentir est inutile au jour du jugement. Pour tous, comme pour ceux qui seront à la gauche du roi, il sera dit « Allez-vous-en loin de moi, maudit, dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges. » Toute protestation sera inutile. Il fallait profiter, en son temps, de l'occasion fournie par la prédication de l'Évangile. Que ce soit l'Évangile de la grâce, comme aujourd'hui, ou l'Évangile du Royaume, comme alors, il faut le recevoir lorsqu'il est présenté. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3, verset 7. Cette scène de jugement se termine par ces mots, et ceux-ci s'en iront dans les tourments éternels, et les justes dans la vie éternelle. Déclaration solennelle pour les condamnés, et réponse simple et claire à ceux qui nient les peines éternelles, tout en admettant qu'il y a un bonheur éternel pour ceux qui croient. Car si l'expression éternelle s'applique à la vie, elle s'applique nécessairement aussi aux peines. Nier l'une, c'est nier l'autre. Remarquez aussi, cher lecteur, combien la bonté de Dieu est grande et merveilleuse. Dieu a préparé pour l'homme un royaume de gloire et de félicité sur cette terre, malgré la connaissance qu'il avait de son état de péché et de révolte contre lui, comme il avait préparé une éternité de bonheur pour tout croyant,
tandis qu'il n'a réservé aucun lieu de malheur pour l'homme.
Le feu éternel a été destiné au diable et à ses anges. Ceux qui écoutent la voix du Seigneur, qui offre le salut, vont avec lui dans la gloire éternelle. Mais ceux qui écoutent la voix de Satan iront avec lui dans les tourments éternels. Qui pourra accuser Dieu d'être la cause de son malheur, comme hélas nous l'entendons souvent dire à des hommes insensés? Tous, nous avons mérité le malheur éternel par nos péchés. Mais Dieu a préparé un lieu de bonheur dans la gloire de sa présence, et il fait connaître à tous les hommes qu'ils peuvent y avoir accès par la foi. De son côté, le diable, meurtrier et père du mensonge, trompe les âmes en les détournant de Dieu et de sa parole, en vue de les plonger dans le malheur éternel, de sorte que chacun sera dans l'éternité avec celui qui l'aura écouté. Où serez-vous, lecteur ? En terminant ce sujet, remarquons que cette séance de jugement n'est nullement celle du jugement dernier, comme on l'enseigne assez fréquemment. Celui-ci est décrit dans le chapitre 20 de l'Apocalypse, versets 11 à 15.
« Je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, de devant la face duquel la terre s'enfuit et le ciel, et il ne fut pas trouvé de lieu pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, se tenant devant le trône. » Et des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert qui est celui de la vie. Et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le Hadès rendirent les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés chacun selon leurs œuvres. Et la mort et le Hadès furent jetés dans l'étang de feu. C'est ici la seconde mort, l'étang de feu. Et si quelqu'un n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie, il était jeté dans l'étang de feu.
Il a lieu lorsque le ciel et la terre se sont enfuis, c'est le jugement des morts. Celui que nous voyons dans notre chapitre est un jugement des vivants. Une note en bas de page, il y a aussi un jugement guerrier qui fait partie du jugement des vivants. Apocalypse 19, versets 11 à 21.
Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui est assis dessus, appelé fidèle et véritable. Et il juge et combat en justice. Et ses yeux sont une flamme de feu. Et sur sa tête il y a plusieurs diadèmes. Et il porte un nom écrit que nul ne connaît que lui seul. Et il est vêtu d'un vêtement teint dans le sang. Et son nom s'appelle la parole de Dieu. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin blanc et pur. Et une épée aiguë à deux tranchants sort de sa bouche, afin qu'il en frappe les nations. Et lui les pétra avec une verge de fer, et lui foule la cuve du vin de la fureur de la colère de Dieu le Tout-Puissant. Et il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, au roi des rois et seigneur des seigneurs. Et je vis un ange se tenant dans le soleil, et il cria à haute voix disant à tous les oiseaux qui volent par le milieu du ciel, « Venez, assemblez-vous au grand souper de Dieu, afin que vous mangiez la chair des rois, et la chair des chiliarques, et la chair des puissants, et la chair des chevaux, et de ceux qui sont assis dessus, et la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées assemblées pour livrer combat à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et le faux prophète qui était avec elle, qui avait fait devant elle les miracles par lesquels il avait séduit ceux qui recevaient la marque de la bête, et ceux qui rendaient hommage à son image. Ils furent tous deux jetés vifs dans l'étang de feu embrasé par le soufre, et le reste fut tué par l'épée de celui qui était assis sur le cheval, laquelle sortait de sa bouche, et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. »
Devant le grand trône blanc ne comparaissent que ceux qui sont morts dans leur état de péché. Ils ont été ressuscités pour paraître devant Dieu et être jugés selon leurs œuvres.
Aucun de ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie ne paraît là, car tous ceux qui sont morts en Christ ont été ressuscités avant le règne de 1000 ans, tandis que la séance de jugement où les nations sont assemblées devant le Fils de l'homme a lieu avant le règne, et seulement pour les nations qui seront alors sur la terre, dans le but d'en ôter de la terre ceux qui n'ont aucun droit à jouir du règne de Christ, puisqu'ils ont refusé de recevoir le message qui leur en offrait l'entrée.